Nous allons prier. Seigneur, oui, ta parole est une lampe qui éclaire mon sentier, notre sentier, et je te prie vraiment de nous conduire pour que ta parole puisse nous diriger. Seigneur, aide-nous vraiment à avoir un cœur ouvert pour entendre ta voix. Purifie nos cœurs, purifie notre entendement, notre manière de penser. Et Seigneur, change aussi notre cœur selon ta volonté. Merci encore parce que tu es présent ce matin avec nous. Tu étais déjà présent dans la louange, dans la prière. Et nous croyons fermement aussi que tu seras présent, tu es présent encore dans ta parole. Seigneur, merci encore de bénir ce moment de partage de ta parole. C'est au beau nom de Jésus que nous te prions. Amen. Bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler sur le combat spirituel. Alors, c'est vrai que je pense qu'il est important de prendre conscience qu'il y a un combat à mener pour cette année aussi 2018. Nous avons déjà mené des combats spirituels et j'aimerais vraiment nous recommander, en tout cas nous solliciter, à prendre conscience que Dieu est là, présent à nos côtés. Nous avons tout à l'heure entendu que Dieu est avec nous, Dieu est pour nous, Dieu est en nous. Ce Dieu qui est toujours présent à nos côtés veut aussi nous conduire vers la victoire. Pour cela, nous avons aussi besoin d'être remplis par l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous vivifie, l'Esprit de Dieu qui nous console, l'Esprit de Dieu qui nous dirige, qui nous fait repentir. En tout cas, prenons conscience de cette réalité. J'ai entendu pas mal de témoignages qui disaient que, oh, vous savez, une sœur m'a dit que voilà, il y a une voisine qui tire les cartes. Et ça me fait pas du bien. Et j'ai l'impression d'avoir, de sentir cette présence. Pasteur, prie pour moi. Même ce genre de choses peut nous influencer. Dans les bons moments aussi, on peut se tourner vers quelque chose qui est plus occulte. Je ne sais pas si vous connaissez le grand joueur de tennis Djokovic. Oui, l'ancien numéro 1 mondial jusqu'en 2016. Eh bien, vous savez que son objectif était de gagner, de remporter les 4 grands chelems. Donc, il avait depuis toujours remporté tous les tournois, jusqu'en 2016, où il a vraiment atteint son objectif en remportant Roland-Garros. Il était aux anges, très content. Il avait même dit qu'il avait vraiment atteint son objectif. Ensuite, il perd la motivation et puis il ne joue plus comme avant. Il ne joue plus comme avant. Et là, il se tourne vers un gourou qui lui promet d'apporter l'amour, l'équilibre à travers le tennis. Vous rendez compte? Quand tout va bien aussi, on peut même se tourner auprès de quelque chose qui est plus occulte. Il s'est tourné vers là, vers ce chemin-là, parce que il a entendu des témoignages comme quoi son frère, qui était dépressif, a retrouvé l'équilibre à travers cette séance. Bien sûr, il peut y avoir des miracles, à travers aussi l'autre puissance. Mais soyons plus lucides spirituellement. En tout cas, malheureusement, beaucoup tombent dans l'occultisme, dans les mauvais esprits, dans l'erreur spirituelle. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à aussi loin. Même parmi les chrétiens, on peut même vivre des batailles spirituelles en étant des légalistes, en étant religieux, en prônant aussi notre propre justice, en poursuivant notre convoitise, notre désir. En tout cas, Éphésiens 6 nous dit, Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est bien dit que nous devons préparer à ce combat spirituel. D'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire le diable ? Diable, hein, dia, divisé. Hein. Donc c'est celui qui divise, le diable c'est celui qui désunit, le diable c'est celui qui détruit l'autre. Et ce diable est toujours présent aussi dans la famille, dans les couples, parmi les amis, et même entre enfants et parents. Il divise beaucoup de personnes, beaucoup de relations, et il fait beaucoup de mal. J'aimerais maintenant vous lire dans Exode un épisode où Moïse combat les Amalek. Exode chapitre 17, à partir de verset 8, que j'aimerais vous lire, jusqu'au verset 15. Je lis. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher de soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. » Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. L'Éternel. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération, jusqu'ici notre lecture. Voilà, on voit la bataille qui a été menée entre le peuple d'Israël et les Amalek. Vous savez que quand... à l'époque de Josué, quand il y avait cette famine, la famille de Jacob entre en Égypte pour trouver refuge à travers Joseph. Et quand ils entraient en Égypte, ils n'étaient que 70 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, à tout casser, ils étaient peut-être 200 personnes. Et puis, quand ils sortent de ce peuple, de ce pays, ils étaient 600 000 hommes, seulement hommes, c'est-à-dire, si on compte avec le nombre des femmes et les enfants, ce serait à peu près combien, à votre avis? 3 000? 3 millions? Pourquoi pas, oui, on pourrait. Ça dépend aussi du nombre des enfants. À l'époque, parfois, on avait 10 enfants. Et même, voilà, plus. Donc, oui, on pourrait peut-être penser qu'il y avait des millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte. Voilà un peu le contexte. Il faut aussi imaginer ce que le peuple a vécu. Ils ont vécu les 10 plaies. Ils ont vu les 10 plaies qui ont été abattues dans tout le pays d'Égypte pour que l'Éternel les fasse sortir de ce pays. Ensuite, ils ont vu la mer rouge traversée en deux, enfin coupée en deux pour pouvoir traverser. Et ensuite, ils ont eu faim et soif, le Seigneur leur a accordé, malgré leurs plaintes, malgré, parce qu'ils ont failli lapider Moïse en lui disant que, mais tu nous as fait sortir pour nous faire périr, alors que, quand ils étaient en difficulté, ils criaient à l'Éternel de les faire sortir, de les sauver. Et une fois que l'Éternel les a sauvés, à cause d'un petit problème, ils ont oublié de faire confiance à Dieu et ils se plaignaient encore et encore. Et puis, malgré cela, Dieu leur accorde toujours des miracles incroyables. Et quand ils ont demandé à boire, Dieu était encore présent. Il a, à travers Moïse, a fait jaillir de l'eau dans un rocher, d'un rocher, en touchant avec son bâton. Et ainsi, il a pu vraiment étancher la soif de tout son peuple. Alors voilà, le peuple a vécu des miracles successifs dans leur vie personnelle. Et enfin, dans le chapitre 17, on voit apparaître tout à coup les Amalécites. Pourquoi alors les Amalécites ont attaqué les Israélites à Réphidim? C'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'ils voulaient récupérer l'eau de ce rocher que Moïse vient de trouver dans le même chapitre? Ou bien tout simplement parce qu'ils avaient peur de ce grand nombre, cette nation, même les Égyptiens avaient peur de ce nombre des personnes des Juifs? Alors, quoi qu'il en soit, les Amalécites étaient contre le peuple de Dieu, ce qui est sûr. Alors d'ailleurs, qui sont les Amalécites? Qui sont les Amalécites? Si on regarde un petit peu, on remonte un peu plus loin dans Genèse, on voit apparaître les Amalecs. Les Amalecs, c'était la descendance de Ésaü, le frère de Jacob. Vous connaissez Ésaü, son histoire aussi. Ésaü, c'est celui qui a vendu, enfin, Isaac avait deux fils, Ésaü et Jacob. Et ils étaient des jumeaux. Ensuite, Ésaü était un fils qui était apprécié par son père. Il était un grand chasseur. Le père l'appréciait. En tout cas, plus l'aîné que le cadet. Et puis un jour que Ésaü rentrait de son chasse, son petit frère, Jacob, lui prépare un potage aux lentilles et lui propose ce potage si languissant, si désireux, qui avait l'air tellement bon. Il veut échanger contre le droit d'aînesse. Ésaü a considéré ce droit d'aînesse comme pas très important. Alors, il déclare, « Je vais mourir de faim. À quoi me serviront mes droits de fils aîné ?» Et puis, il échange le droit d'aîné. À vue humaine, ça n'a pas l'air d'être aussi grave. Pourtant, lorsqu'on regarde un petit peu la signification, vous savez, le droit d'aînesse signifie la bénédiction de Dieu. Il a méprisé complètement cette bénédiction de Dieu parce qu'il avait tout simplement faim. Et il a échangé tout cela. Cette bénédiction de Dieu, il n'a accordé aucune importance à ses droits de fils aîné. Ainsi, on pourrait considérer que ce Ésaü est un peu le symbole de la méprise de la bénédiction de Dieu. Et Amalek était un de ses fils, de ses petits-fils. Donc Amalek représente un petit peu symboliquement le pouvoir du mauvais. Je dirais que le diable les a utilisés comme ses instruments. On peut être utilisé comme un instrument de Dieu ou comme un instrument du diable. Ce qu'on peut voir, c'est que ces Amalécites ont attaqué l'Israël juste après leur sortie d'Égypte. Alors, dans quelles conditions il les a attaqués. On va voir ça dans Deutéronome 25, que j'aimerais vous lire. Deutéronome 25, versets 17 à 18, il est dit « Rappelez-vous ce que les Amalécites vous ont fait lorsque vous étiez en route après la sortie d'Égypte. Ils n'avaient aucune crainte de Dieu. » Donc là, on peut voir que les Amalécites n'avaient aucune crainte de Dieu. Ils s'en foutaient carrément de Dieu. C'est ça, on peut dire comme ça. Comme ça, on comprend mieux pour les jeunes qui est là-haut. Si bien qu'ils nous ont attendus le long du chemin, alors que vous étiez complètement exténués, et ils ont attaqué les retardataires à l'arrière de votre troupe. Ils étaient assez mesquins. Ils étaient des gens qui ne craignaient pas Dieu, d'après ce Deutéronome. Et puis, au moment où les Israélites étaient fatigués, exténués, et surtout, ils ont commencé à attaquer les retardataires. À travers cet événement, ce qu'on peut voir, c'est comment le diable attaque notre vie. C'est comme ces Amalécites. Ils attendent qu'on soit fatigué, qu'on soit exténué. Et c'est à ce moment-là que lorsque nous sommes vraiment faibles, qu'ils commencent à nous attaquer. C'est ça la stratégie du diable. D'ailleurs, lorsqu'on regarde un petit peu dans la loi de la nature, quand vous voyez même les lions, quand ils attaquent des animaux, ils attaquent des animaux faibles qui sont mis à part, enfin qui sont éloignés de leur troupeau. C'est exactement pareil. Et là, ce qu'on peut penser, est-ce que nous sommes vraiment proches, ou plutôt, nous avons autant de liens proches avec les frères et sœurs en Christ? Est-ce que je suis tout seul, largué comme ça, ou je suis ensemble avec quelqu'un? Est-ce qu'en ce moment, est-ce que vous êtes fatigué spirituellement, ou est-ce que êtes-vous fort spirituellement? Est-ce que vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la parole de Dieu, motivé pour obéir à notre Dieu, ou tout simplement vous êtes dans un moment de doute, de faiblesse à cause de vos épreuves? Ou peut-être tout simplement parce qu'il y a l'abondance. C'est une question qu'on pourrait se poser. En tout cas, il est clair qu'on doit suivre Jésus de manière assez près. On peut voir aussi l'épisode de Pierre. Vous connaissez l'apôtre Pierre, qui était un des apôtres préférés de Jésus, puisque Jésus, lorsqu'il avait des choses particulières à partager avec avec ses disciples, il avait toujours les trois disciples, Pierre, Jean et Jacques. Donc Pierre, on pourrait dire que c'était un apôtre préféré. Mais au moment de crucifixion, Pierre suit Jésus comment? De loin. Il ne le suit pas de près. Jean était tout près. D'ailleurs, au moment de crucifixion, Jésus a dit, en regardant Jean, il lui confie sa maman. Voici ta maman, voilà ton fils. Moi je meurs, mais c'est Jean qui va prendre soin de toi, à sa maman. Alors que Pierre, lui, il le suit de loin, parce qu'il avait peur. Peur pour sa vie, peur de ce que les autres penseraient de lui. Il suit Jésus de loin. C'est ainsi qu'il a renié Jésus trois fois, avant que le coq chante. Nous ne traînons pas dans la suite de Dieu. En tout cas, ce peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient tout feu tout flamme aussi. On peut être dans une certaine faiblesse lorsque nous avons réalisé une œuvre extraordinaire. Ils venaient de sortir d'Égypte. Ils ont vu les 10 plaies, la puissance de Dieu. Ils ont vu la mer fendre en deux. ils ont vu aussi comment Dieu pouvait les pourvoir chaque jour. Ils ont vu des miracles. On pourrait dire ainsi, la pression retombe. On n'est plus sur notre qui-vive. Et c'est ainsi que le diable aussi vient, sans qu'on sache. Une des causes de l'échec face à l'ennemi est qu'on le sous-estime. Bien sûr, ce diable n'est pas omnipotent, n'est pas omniscient, il n'est pas le tout-puissant. Bien loin de cela, hein, par rapport à Dieu. Dieu est beaucoup plus puissant, bien sûr, mais il est quand même dangereux. Il est quand même dangereux. Et faire face à l'ennemi tout seul, je ne vous conseille pas. Je dirais même, il est préférable d'être ensemble pour combattre cet ennemi commun. Au verset 9 que nous venons de lire tout à l'heure, il est écrit, Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes capables de nous défendre et va combattre les Amalécites. » Il y a une collaboration entre Moïse et Josué. Moïse n'était pas tout seul, Josué n'était pas tout seul, et en plus, ils ont choisi des hommes capables de nous défendre. Et va combattre les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Très important. Dans Ecclésiaste, il est dit que deux hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. À deux, ils tirent un bon profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Par contre, celui qui est seul est bien à plaindre, car s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Pour vous dire qu'il est important d'avoir un frère, une sœur avec qui partager notre foi, avec qui partager nos soucis, nos requêtes. Hier, pour la première fois depuis que je suis là à Vendeuvre, nous avons organisé le petit-déj entre hommes. Voilà, entre hommes. C'était super sympa. Nous étions 9 personnes et on a fait connaissance. Chacun a partagé sa vie et je me suis dit, oui, c'est important de se soutenir les uns des autres. Mais avant de se soutenir, il faut d'abord les connaître. C'est bien de demander la prière, mais il faut qu'on se connaisse davantage pour mieux intercéder, pour mieux soutenir. Lorsqu'il y a un besoin, comment on peut savoir le besoin de l'autre si on ne communique pas? Hein? C'est pour ça d'ailleurs que nous organisons une fois par mois une agape pour que les gens restent, se fassent connaissance. Parce que pour moi, le dimanche matin, dire bonjour et au revoir n'est pas justement une communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est vivre ensemble tous les jours, en échangeant, en communiquant, en essayant de connaître l'autre. Donc, je vous conseille vivement de rester. Je ne vous demande pas de rester tous les dimanches, c'est une fois par mois, de rester partager le repas pour mieux connaître, pour faire connaissance à l'autre. Et ce que nous avons remarqué hier, nous étions 9 personnes, 9 hommes, et souvent on se croise, souvent on discute même, il nous arrive de discuter le dimanche matin, mais je ne connaissais pas vraiment aussi les personnes. C'est ce que j'ai remarqué hier. Je ne savais pas que Thierry avait 5 enfants. Vous vous rendez compte, hein? Quelle honte. Et beaucoup de gens, en tout cas, avaient partagé, ouvert leur cœur. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur aussi. C'est en tout cas à continuer. Et je me dis que Voilà, j'ai commencé à organiser ce petit déj entre hommes le samedi matin, peut-être une fois par mois. Mais vous savez, dans l'église, il y a plusieurs cellules où vous pouvez venir échanger vos sujets de prière, où vous pouvez aussi échanger votre vie, parce qu'il ne faut jamais être tout seul. Parce que c'est à ce moment-là, lorsque nous sommes largués tout seuls, c'est à ce moment-là que le diable attaque. C'est à ce moment-là que nous sommes affaiblis spirituellement. Ayez au moins une ou deux personnes avec qui vous pouvez ouvrir votre cœur. C'est bien de partager entre couples aussi, c'est bien. Mais avoir encore un ami en plus supplémentaire, c'est encore mieux. Donc je disais que Moïse a collaboré avec Josué. Ils ont choisi des hommes capables de combattre les Amalécites. Et puis Josué est parti combattre. Et puis d'ailleurs, Moïse, de son côté, qu'est-ce qu'il fait? Il va au sommet de la colline. Il y va pas tout seul. Il y va avec Aaron, son grand frère, et Hur, un des anciens. Tant que Moïse tenait donc un bras levé, les Israélites étaient les plus forts. Mais quand il le baissait, retombait, les Amalécites l'emportaient. Lorsque les deux bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Hur prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit. Aaron et Hur, chacun d'un côté, lui soutenèrent les bras, qui restèrent ainsi fermes levés jusqu'au coucher de soleil. Voilà, ils ont collaboré ensemble, ils ont prié ensemble pour que cette bataille soit menée et qu'ils connaissent la victoire. L'intercession est très importante. Je pense que j'ai déjà raconté cette histoire. Je connaissais une femme de prière qui ne connaissait rien du tout, mais elle avait reçu l'appel pour la France. Et puis elle a tout quitté, vendu sa maison, et elle a acheté une maison en France. Elle s'est installée juste pour faire quoi? Pour prier. Bon, elle avait de l'argent pour ça, elle n'était pas obligée de travailler, elle était retraitée. En tant que retraite, son objectif, sa vocation, était prier pour la France. Et puis je vous ai aussi raconté un petit peu ma maman qui prie tous les jours, matin et au soir. Dans sa chambre, elle avait mis un paravent. Pourquoi? Parce qu'elle voulait avoir un lieu de prière. Et tous les jours, matin au soir, elle regarde ce mur où il y a marqué plein de sujets de prière. Chaque frère et sœur de l'Église lui apporte un sujet de prière qui leur est à cœur. Et ma maman les accepte et puis elle fait des promesses de prier pour eux. Et c'est ce qu'elle fait tous les jours. Tous les jours, elle regarde tous ces sujets de prière. Puis, au départ, elle lit, puisque voilà, elle ne connaît pas tous les sujets. Après, à un moment donné, elle connaissait par cœur, elle n'était pas obligée de lire. Et puis, souvent, les sujets de prière changent aussi. Elle fait ça tous les jours. Quelqu'un me disait, t'as la chance d'avoir une maman qui prie pour toi tous les jours. Oui, c'est super. C'est une grande chance d'avoir une maman qui prie pour toi, mais toi aussi, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Et c'est ce que je disais en lui disant que il y a Jésus, le plus grand intercesseur, qui est là pour prier pour toi. Et j'ai lu ce verset. Qui peut alors les condamner? Personne! Dans Romains 8, 34. Car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Jésus prie en ce moment pour chacun d'entre nous. C'est bien d'avoir une mère qui prie pour vous, mais c'est bien d'avoir un pasteur qui prie pour vous aussi. Mais le plus grand intercesseur, Jésus-Christ, est là. Ne nous oublie pas. et soyez convaincus de cette intercession. Et d'ailleurs, à travers aussi ce modèle, Dieu nous demande de faire la même chose pour nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Comme Moïse, Aaron, Hur ont fait, Dieu nous demande de prier. Prier les uns pour les autres. Bientôt, Léa va partir pour, en Afrique pour ses études, mais aussi pour la traduction de la Bible aussi. Et il faut prier pour ces jeunes qui partent. Il faut prier pour tous ces missionnaires qui sont sur le champ de bataille spirituelle. Il faut prier pour les serviteurs, les responsables de l'Église. Il faut prier pour nos frères et sœurs qui sont en difficulté, qui sont malades. Il faut prier pour le bon rétablissement de Edith qui s'est fait opérer des mains. Il faut prier pour des gens qui sont dans la maladie, c'est vrai, qui ne partagent pas. Il faut prier pour mes frères et sœurs ou mes amis, ma famille, qui ont des maladies graves. La prière est très importante. La prière est très importante. J'aimerais vous lire encore un verset dans Romains 36. Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu nous aime. Dieu nous intercède pour nous. Et rien ne pourra séparer de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Et faisons confiance à ce Jésus qui nous a montré l'exemple, qui a été toujours victorieux contre toutes ces tentations du diable. Jésus était en communion avec ses disciples, avec ses enfants. Ce Dieu, le Père, qui est au ciel maintenant, veut être aussi, veut communier avec nous. Il veut demeurer en nous, il veut que nous demeurions en lui. Cette parole est vraie et c'est possible lorsque nous sommes en lui. Et ainsi, nous pouvons vivre tous ensemble dans le bonheur et aussi dans la victoire surtout. En conclusion, oui, il y a des combats à mener. Parfois, il nous arrive aussi d'échouer, d'être battu par tous ces tentation ou bataille spirituelle, mais on ne perdra jamais la guerre, tant que Dieu est avec nous. Et c'est pour ça qu'il est important vraiment d'être rempli. J'ai commencé cette prédication en disant que nous devons être dans la plénitude du Saint-Esprit. Bien sûr, l'Esprit est là, à nos côtés, à partir du moment où nous avons confessé que Jésus est le Christ, puisque sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas confesser que Jésus est Christ. Par contre, être dans la plénitude de l'Esprit de Dieu est complètement différent. Être plénitude dans l'Esprit de Dieu pour vivre la victoire dans la vie de tous les jours. Que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions vraiment nous rendre compte que lorsque nous sommes loin de ce troupeau, loin de cette communauté, loin des autres frères et sœurs, et lorsque nous sommes exténués, et lorsque nous sommes fatigués, c'est à ce moment-là que le diable rôde comme un lion rugissant pour nous faire tomber. Et prenons conscience de cette vérité, de cette réalité spirituelle, et que nous puissions vraiment davantage faire des efforts pour être les uns des autres ensemble, pour combattre, pour expérimenter le miracle de Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ta présence avec nous. À travers cet exemple de bataille contre les Amalécites, nous avons vu que le diable, oui, rôde comme un lion rugissant, il est rusé, Il regarde si nous sommes plus faibles, si nous sommes largués du troupeau. Il regarde si nous sommes exténués pour nous tenter, pour nous déstabiliser. Mais nous savons que, avec toi, nous pouvons vaincre toutes ces attaques. Seigneur, les Amalécites ne faisaient pas de poids contre toi. Et c'est ce que nous voulons vivre aussi pour cette année 2018. Sois avec nous, que nous puissions demeurer en toi, que tu demeures en nous, que nous puissions vraiment vivre cette intimité spirituelle avec toi, cette communion spirituelle avec toi pour sortir vainqueur de toutes ces batailles, toutes ces guerres spirituelles. Seigneur, aide-nous vraiment à lever nos yeux même dans nos difficultés, car c'est là où vient notre aide. Tu as promis d'être là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Seigneur, que cette promesse se réalise dans ma vie personnelle, Seigneur. Merci encore parce que tu nous parles, tu nous as parlé encore ce matin, que cela ne reste pas juste pour ce moment où nous t'écoutons, mais que ce soit aussi appliqué dans la vie réelle, de tous les jours, dans la semaine, lorsque nous serons dans ma famille, avec mes amis, au lieu de travail, ou même à l'école, Seigneur. Merci encore de nous accompagner avec ton esprit, que nous soyons vraiment remplis de cet esprit qui nous guide, qui nous convainc de péché, qui nous purifie de nos péchés aussi, Seigneur. Conduis-nous. Au nom de Jésus. Amen.